Pierre-Marie, Karine.
Salut Romain.
Pof. On dit Karine ?
Oui.
Ouais, c'est bien comme ça.
C'est toujours le même micro. Hein.
Je t'allume, ça ira mieux.
Alors, pas en direct comme ça, s'il te plaît.
Il fait très chaud dans ce studio.
Oui.
Vous allez peut-être entendre le ventilateur et les sirènes des pompiers derrière nous pendant cette émission jusqu'à 22h.
S'il y a des bruits de courant d'air, c'est peut-être pas forcément le ventilateur, mais des gens qui brassent de l'air autour de l'association.
Ok. Bon, vous avez eu le temps de lire des livres quand même, là. C'était plutôt la team cinéma quand on est dans cette émission ces derniers temps.
Bah, c'est plus rapide de regarder un film que de lire un livre, ça.
Ouais.
Bah oui, effectivement. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu, Karine et moi.
Mais si.
Et on s'est dit que comme c'était les vacances, et bah, on allait offrir notre présence à cette auguste audimat.
Et vous avez lu quoi?
Alors, moi je vais vous parler de L'œuvre du serpent de Norman Django, qui a été publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Et toi Pierre-Marie?
Et moi j'ai lu Claire North et Katia Lanero Zamora de Novella, parce que j'ai pas le temps de lire un bouquin.
En deuxième partie d'émission, on écoutera l'interview de Victor Dixen, que tu avais réalisé, Karine. C'était à Cultissime. Donc, ça date un petit peu.
Bah, ça date d'il y a quasiment un an, moins de mois.
Presque.
10 mois,
ouais.
Waouh.
C'est mais notre. Mais c'est toujours un auteur à découvrir.
Et je pense qu'il est toujours aussi productif, hein, parce que là, il avait déjà une quarantaine de titres.
Oui. Il vient de finir une tournée en France et dans les pays du Benelux. Et il vient de repartir chez lui aux États-Unis.
Ah, je croyais qu'il était franco-danois, moi.
Oui, mais ça n'empêche qu'il peut habiter aux États-Unis.
Bah oui, tout à fait.
Exactement, monsieur.
Écrivain plutôt young adult, on pourrait dire, ou
pas? Ouais, ou young adult, et puis une petite entrée gentille dans la romantésie.
Et un petit peu de bande dessinée aussi, on parlera de ça tout à l'heure.
En tant que scénariste, tout à fait.
On commence l'émission avec un petit peu de musique, je dirais médiévale, mais non, peut-être pseudo-médiévale, assez... Artement de Lierry.
Du Bardcore, pas encore?
Non, pas du Bardcore, plutôt du Dungeon Saint, en fait, parce que Artement de Lierry, j'ai découvert son existence quand il a fait la première partie de Questmaster, une des stars du genre qui nous venait d'Australie et qui a fait un concert à Paris il y a quelques mois. Et un album sorti hier, je crois, qui s'appelle Troubadour au pluriel. Et sur cet album, on trouve certains morceaux en deux versions. Il y en a une, c'est mis échec, entre parenthèses. D'après vous, pourquoi?
Alors, soit c'est parce que c'est un bide total, soit c'est parce qu'il jouait aux échecs.
Le bazar. Vous pouvez essayer de nous rejoindre sur le chat. Une petite idée. Il y a des versions ratées, en fait, de certains morceaux.
Du coup, le bide total, on y revient.
Ouais. Et d'après vous, pourquoi il l'a mis? Parce qu'en général, quand on rate une prise, on la met pas sur l'album.
Alors, nous, on le fait pour nos livres. Tu sais, c'est les anthologies avec les nouvelles de dernière chance, celles qui ont été refusées partout ailleurs, on les accepte. Donc. C'est une blague.
Ah, vrai.
Allez, je vous explique. C'est parce qu'en fait, c'est la BO d'un jeu de rôle qui est sorti en même temps, qui s'appelle aussi Troubadour. Petit jeu de rôle, donc on peut retrouver sur son itch.io. Et en fait, si vous réussissez, donc on y incarne une coterie de troubadours. Et si on réussit à jouer le morceau, on peut passer le titre bonne version. Et si on rate son jet de dés, eh ben, il y a la version foirée qui est prévue pour.
Ah,
pas mal quand même. Allez, on s'écoute un extrait de cet album et on se retrouve après sur le 101.5. Le thème principal donc de Troubadour, le jeu de rôle, et l'album par Artvan de Lieré.
Donc avec l'œuvre du serpent, Norman Django nous propose un récit d'anticipation où dans un futur proche, une onde de choc a tout détruit, laissant derrière elle une société ravagée par la perte. Les bâtiments ne sont que l'ombre des fondations passées et les survivants peinent... Quoi ?
Oh non, pardon. Il y a le ventilateur qui souffle dans ton micro, Karine.
Ah.
On t'écoute.
Alors, je reprends. Où en étais-je ?
Tu parlais de Norman Django.
Non, c'est vrai !
Ouais.
Bon, j'en étais au bâtiment. Les bâtiments ne sont que l'ombre des fondations passées et les survivants peinent à trouver un sens à leur existence. Malgré ça, des individus ont vu leur trajectoire de vie déviée par l'apparition d'un don. En effet, ceux qui ont ce don sont capables de percevoir des indices en interprétant des coïncidences et déchiffrant des signes. Là où tout semble être cohérent, ces personnes peuvent être une ressource non négligeable pour résoudre des enquêtes. On les appelle les pitons. Et c'est là que nous rencontrons Nathaniel Lopp, un piton recruté par la police qui, après un grave accident, disparaît de la circulation. Son ancien adjoint, Milo, va le retrouver pour résoudre une enquête de taille. Il lui faudra retrouver un serial killer qui sévit dans Paris.
Un serial killer, pardon.
Eh oui. Et je ne vais pas vous en dire plus. Comme d'habitude, il faudra le lire pour découvrir l'envers du décor de l'intrigue. Et quelle intrigue, vous n'êtes pas prêts. Dans l'œuvre du serpent... Norman Django se joue des genres en mélangeant à merveille thriller, science-fiction, anticipation, post-apo, le tout dans un même roman, brillamment mené tant par l'écriture addictive, le suspense laissé et des chapitres courts qui illustrent parfaitement la dynamique de ce roman. Un vrai page-turner où l'action ne cesse de nous surprendre. Mais ce n'est pas tout, puisqu'à travers son roman, c'est aussi une critique de la société que l'on observe et une part belle pour la synchronicité qui appelle à voir le monde sous un autre prisme. Et également une mise en lumière des failles des personnages eux-mêmes. Nathaniel n'est plus que l'ombre de lui-même après ce terrible accident. Lui qui était un peu un but à personne, avec un côté très agaçant, on le retrouve complètement brisé dans les ruines de cette société. Milo est en quête de sens après sa rupture avec Lia, et ça tourne à l'obsession. Il a tellement peur que les indices le mènent à elle plutôt qu'à la résolution d'une enquête qu'il doute à chaque instant de lui et de ses capacités. Un roman qui réussit donc à mêler à la fois la psychologie, et la physique quantique. J'étais déjà fan avec le 7e continent publié par les éditions Oniri. Après l'œuvre du serpent, je suis convaincue. C'est un auteur que je vais suivre de très près pour ne rater aucune de ses prochaines sorties. Et justement, il paraît qu'une nouveauté sortira à l'automne prochain. Vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur. Donc je ne peux que vous recommander de lire ses œuvres. Et je vous laisse maintenant avec The New Sanity de Bastardan, un groupe américain de heavy metal fondé en 2019 sur Radio G.
Pauline, dans Imaginaire, sur le 101.5. Est-ce que tu étais à leur concert au Hellfest dimanche à 11h du mat?
Non, du tout.
Non, tu étais à la messe, Karine.
Non, du tout non plus.
Alors, Bastardine, qu'est-ce que je voulais dire? Si, il y a un mec très connu. C'est Castor Hetfield qui fait partie de ce trio. Hetfield, ça vous dit quelque chose?
Non, pas du tout.
C'est le fils du leader de Metallica, James Hetfield.
Ah.
Bon, ils étaient
pas
présents. Pas
dit, je l'aurais jamais su.
C'est un peu bizarre, Castor, comme prénom, non? Vous trouvez pas?
Oui.
Ça dépend, s'il y a un frère qui s'appelle Pollux, ça passe. Elle est hyper longue et ça fait chier tout le monde. Mais moi, je l'aime bien comme musique. Ça fait très orchestral. Et puis, bah, la série était quand même ouf. Une série de science-fiction européenne sur la conquête de l'espace. Et à chaque fois, ça m'embarque. On reste dans la science-fiction et je vais vous parler de deux novellas. Puisque, bah, comme jeune, tout jeune actif qui se respecte, j'ai pas le temps de lire.
D'où l'intérêt des novellas, alors.
D'où l'intérêt des novellas. Merci. Mais on reste dans la science-fiction parce que j'aime les courts textes qui ont du sens. On peut sortir la phrase dans n'importe quel sens, ça passera, Karine, t'inquiète pas. Donc, deux autrices à aborder, deux collections à aborder, de deux maisons d'édition qui ont mon cœur depuis des années. Une Heure Lumière du Bélial, on en est quasiment au 60e Une Heure Lumière qui est sortie, mais je vais pas vous parler de celui-ci, je vais vous parler du 59e. C'est pas très grave. Sweet Harmony de Claire North. Et puis, la collection Récif de Argile, la collection de nouvelles de Argile.
Récent.
Féministe, exactement. Argile est une collection récente, et puis bah, la collection Récif, c'est les textes au féminin. C'est le sixième, la sixième novella qui est sortie, donc c'est aussi encore plus récent. Deux collections qui ont mon cœur, comme je vous le disais, parce que le matin, dans le train, entre Angers et Nantes, et le soir, quand on revient, on a le temps de lire son Une Heure Lumière, et ça fait vivir. Et puis pour le porte-monnaie, c'est pas dégueulasse non plus, on a une nouvelle entière au prix du poche, ça fait plaisir. Mais de qui qu'on cause ? Katia Lanero Zamora, outre le fait que à aucun moment de ma vie, si c'est pas écrit, je ne m'en souviens, est une autrice belge, francophone du coup, qui écrit depuis plus d'une dizaine d'années, 2011 pour le premier texte. Elle est aussi podcasteuse et elle nous a sorti chez Feu ActuSF, avant les nouvelles éditions ActuSF, un diptyque fantastique extraordinaire sur la machine. On parle pas de moi. Depuis, son texte a été réédité et elle a sorti cette nouvelle-là, et novella, on peut faire le jeu de mots, merci Karine, on reste là, pour Restart, Restart. Un texte féminin, féministe, engagé, tout ce qu'il faut pour la collection Récif. De l'autre côté, Sweet Harmony, qui sort donc aux collections Une Heure Lumière chez le Bélial. Et ici, on va faire un texte d'anticipation, féminin, féministe, mais surtout anticapitaliste. Pourquoi parler de ces deux textes-là ? Parce que, sous couvert de leur axe pour aborder les questions radicalement différents, on y retrouve le même sujet. Les dictats de notre société sur les femmes et surtout sur le corps féminin. Bien sûr, deux angles d'approche qui abordent cette nouvelle. Ici, nous avons Claire North, qu'on a connu dans la maison de jeu, son magnifique triptyque sur le capitalisme notamment, mais là elle y revient, on va suivre une agente immobilière dans un Londres, dans pas si longtemps que ça, entièrement refaite sur une base de nanotechnologie qu'elle paye en abonnement. Et le défaut d'abonnement, le défaut de paiement, fait que tout ce qu'elle avait essayé de se préserver par la nanotechnologie lui revient. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? Bah, un peu de cellulite, un peu de vergéture, un petit peu de kilo trop, un peu de gras sur les cheveux, rien de dingue. Mais dans une société et encore plus dans un métier où le paraître est plus important que l'être, ça change tout.
Ça veut dire qu'il y a des petits nanorobots qui sont tout le temps sur les gens en train de leur...
Et à l'intérieur, tout à fait.
Modifier leur physique.
Exactement. Ou en tout cas d'améliorer. On est ici sur de la transhumanité. On améliore un corps dit sain, sauf selon les canons esthétiques du moment, pour le rendre plus collant avec la réalité esthétique.
Et donc s'il s'arrête, le corps redevient
ce qu'il aurait dû être génétiquement.
Prévu, voilà.
Et oui, ça change tout pour elle, puisque ici, le paraître, comme je vous le disais, fait tout à tel point qu'il construit une réputation au même titre qu'il construit une carrière. perdre, ou plutôt gagner quelques kilos, peut vous faire perdre quelques échelons dans cette société immobilière, puisque son seul métier est de vendre des maisons à des millionnaires et à des milliardaires. Il faut ressembler à quelque chose, et c'est triste. De son côté, Katia Lanero-Zamora nous fait entrer par un autre biais sur ce sujet-là, qui est celui des sectes. Oh, ça fait peur. Il y a un trigger warning à l'intérieur. Oui, je sais, avec mon magnifique anglais, je sais qu'il vous avait manqué.
Mais il est à la fin, par contre.
Il est à la fin, mais il est marqué au début. Ah, parce que tu lis à la française et donc tu as une petite note qui est hyper bien. Ces thèmes abordent des thèmes délicats. Ce texte aborde des thèmes délicats et contient des scènes pouvant heurter la sensibilité des lectrices et des lecteurs. Pour celles et ceux qui veulent en être informés, un avertissement se trouve à la dernière page du livre. Mmh, allons voir l'avertissement, histoire de se mettre en bouche. Se mettre en bouche, le jeu de mots n'est pas si drôle que ça. Ce texte aborde les thèmes de standards de la beauté imposés par la société patriarcale, de la dysmorphophobie et des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. Il contient également des scènes violentes de cannibalisme pouvant heurter la sensibilité. Une mise en bouche.
Tu spoil.
Et oui. Puisqu'on va y suivre une personne qui est rentrée dans son secte, dans une secte dont le seul règlement est que chaque femme est une déesse et son corps est un temple, elle doit en préserver sa féminité. Oh waouh ! Sur le papier, ça peut s'entendre, mais ici, on parle vraiment de se priver pour répondre à des standards de beauté. Et surtout, bah, c'est une secte. Le but étant de faire gagner de l'argent au gourou. Ah. Enfin, plutôt à la gourelle. Je ne sais pas si ça se dit, néologiste.
Une gouroute.
Ça passe aussi. Deux textes courts. Dans l'air du temps, si je puis dire, qui aborde sur les fonctions premières des textes de l'imaginaire, la science-fiction avec tout ce qui est technologique, et puis l'anticipation avec tout ce qu'il y a de fantasmes sociologiques, des questions qui n'ont jamais eu autant de sens actuellement. À l'heure où le paraître dans la société est aussi important, où le visuel prend le pas sur l'intellectuel, et où il est plus facile de raconter une connerie que d'en démontrer l'iniquité, je suis pas sûr de ma phrase.
Vous écoutez bien Imaginaire sur le 100.5.
Ces textes ont un petit côté réveil matin, en fait. On se rend compte de pas mal de choses. Bien sûr, toute la littérature de l'imaginaire n'a jamais été faite que pour faire réfléchir sous des dehors de divertissement. C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que je la hais. Elle me fait vivre mes meilleurs rêves, elle me fout mes pires cauchemars. Mmh. Il n'empêche que, à une époque où les maisons d'édition nous sortent des beaux pavés, c'est fait exprès, ce sont des beaux livres à 30-40 euros, dont la plupart du temps on n'a pas envie de les ouvrir de manière à pas les abîmer, et bien avoir une petite collection de novellas en une centaine de pages.
D'ici, c'est un beau livre, hein. Moi, alors, j'aime bien la couverture très colorée.
Le beau livre est fait exprès, puisque récit à l'image d'une heure-lumière, ouais. On ne parlera pas de copie ici, s'il vous plaît. Une heure-lumière a fait le pari que chacune des couvertures soit faite par Aurélien Polis. De l'autre côté, pour Récif, qui est une collection de novellas chez Argile, comme je le disais, c'est la même illustratrice pour une collection de novellas féministes et féminines, des autrices. C'est Anouk Faure qui les fait toutes. Et effectivement, c'est un pari réussi.
Ouais, j'aime bien, moi, quand une collection a vraiment un ou une illustratrice qui donne une palette... Une patte, plutôt.
Oui, plutôt.
En tout cas, elle nous embarque, comme tu dis, et puis on sent ici vraiment l'artiste. C'est la grosse différence que je fais entre Aurélien, qui m'ébahit par son talent, et Anouk Faure. Aurélien est un infographiste de génie, mais Anouk est une sculptrice. On sent la recherche le relief du dessin, là où Aurélien nous fait une palette de...
Ah bah tiens. C'est le retour de la palette.
J'ai pas compris la blague.
Non, mais t'écoutes pas.
Non, mais c'est parce qu'il a dit palette
au lieu de pâte.
Pâte.
Peut-être que tu voulais dire pâte aussi, Pierre-Marie.
Non, non, moi je voulais une palette de graphisme, enfin j'ai oublié, de pigments, c'est ça, une palette de pigments. Aurélien est génial, il nous a fait l'affiche pour 2019 pour Orient Extrême. Elle est géniale. Mais il y a une recherche
c'est très différent, j'aime les deux.
Et suite à tout ça, ça a induit le choix de ma musique, qui n'est absolument pas dans ce que j'écoute habituellement, mais
alors,
les paroles.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Et bah c'est ça. C'est à nous tous qui sommes imparfaits, une petite ode à la joie. On retrouve donc à nous de Noé Prezwood.
Je sais pas, un belge aussi, donc ça se prononçait pas trop comme ça. On se retrouve après pour l'interview de Victor Dixen.
Ça sera plus joyeux.
À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance. À nous qui devons mordre et à nous dans l'urgence. À nous pas la mode, à nous dans le décor. À nous qui ne savons pas comment tenir nos corps. À nous dans l'univers, à nous dans l'infini. À nous dans le manque d'air, étonné d'être en vie. À nous dans l'écriture et à nous sans les mots. À nous dans les ratures et dans nos sacs à dos. Qui rêvons de forêt, qui rêvons de rivière. À nous dans le métro, qui cherchons la lumière. À nous qui poursuivons des perdants magnifiques. À nous dans l'illusion d'un chemin prophétique. À nous qui débordons dans les rires et les larmes, qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flamme. Quand on avait 10 ans, à grandes enjambées, pédalant, pédalant pour l'éternité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous, parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous. On peut avoir un toit et une corde au cou. On peut avoir des droits et marcher à genoux. À nous qui nous parlons, nombreux dans le miroir. À nous qui voyons double, qui voyons blanc et noir. À nous les trop polis, qui n'en pensons pas moins. Qui tendons l'autre joue, mais qui serrons les poings. À nous qui passons pour des antipathiques. Et surtout pour des cons à chercher l'authentique. À nous dans les chansons d'il y a 40 ans. Mais à nous qui guettons devant, devant, devant. À nous dans les bobines, dans le grain maladroit, dans les cartes postales et dans les feux de joie. À nous qui ne vendrons jamais nos vérités. À nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui fuyons là où ça parle en vain de télévision ou de magasin. À nous qui sommes là, qui tombons comme chacun. Dans le panneau, dans les réseaux, dans le vide et le trop-plein. Mais qui nous préparons à quand ce sera fini. Quand il faudra se parler et redevenir amis. Quand on pourra se dire tout est son contraire. Sans que ça doive passer par une carte mère. Quand on ne pourra plus savoir qui va où. Savoir qui vaut combien et qui se fout de nous. À nous sans drapeau, à nous sans étiquette. À nous sans lingots, à nous sans paillettes. À nous dans nos verres d'eau ou dans nos cafés noirs. Qui ne maquillons pas nos nuits de déboire. Qui ne trinquons pas sur les places branchées. Qui sifflons dans le vent notre fragilité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À vous de l'autre côté, du mur ou de la mer. Dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide. Dans l'humiliation, à vous le cœur solide. À vous derrière les grilles, sous les bombardements. À vous dans la noyade, à vous les dissidents. À vous dans l'injustice, à vous sous les verrous. À vos filles, à vos fils, à vous, à vous. À vous.
À vous.
Ouais, c'est à nous.
Non, non, c'est à vous.
C'est à vous dans Imaginaire sur le 101.5. C'était Noé Prezove. Et je vois qu'il a signé la préface d'un livre de poèmes de Laurence Vielle qui est sorti aux éditions du Castor Astral. La boucle est bouclée.
Non, il manque toujours Pollux.
On va passer à l'interview de Victor Dixen, donc on avait rencontré
à l'occasion.
On a des fans dans le studio.
Ah ouais. On a, c'est même pas une fan, c'est une groupie.
Ah ouais.
Elle le connaît par cœur, elle a dit, mais
est-ce
elle a
qu'on peut avoir un cri de groupie, s'il te plaît?
Ah, il faut que tu
bouges. Non, c'est pas mal. On l'avait topé un peu à l'heure de l'apéro, hein, je vous préviens. C'est, oui. Derrière, il y a des gens qui sont déjà en train de trinquer.
Est-ce que c'est pas notre spécialité?
Allez, on s'écoute ça tout de suite dans l'imaginaire.
Nous sommes à Cultissime en compagnie de Victor Dixen. Donc, tu es un auteur d'une quarantaine de livres. Tu as obtenu plusieurs prix, dont le Grand Prix de l'Imaginaire, 2 fois, pour deux romans distincts. Donc Été mutant et la malédiction de boucle d'or. Le prix du roman jeunesse 24 heures, le livre sur les quais du côté de la Suisse. Pour la prophétie de la Reine des Neiges, le prix imaginal des collégiens, le prix chimère et le prix imaginal des lycéens pour Cogito. Ses derniers romans sont Les Licorniers, c'est un tome 1, et l'agence Perdido, c'est un tome 1 également. Donc pour commencer, je voudrais te poser la question, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à écrire pour la jeunesse et le public des jeunes adultes ?
Eh bien déjà parce que je lis beaucoup de littérature jeunesse également en tant qu'adulte. Je pense qu'à tous les âges on peut se reconnecter à l'enfant qu'on a été, à l'adolescent qu'on a été. Également je trouve dans cette littérature le souffle d'aventure dont on a besoin de se nourrir à tous les âges. Et dans la tradition littéraire française, on a vraiment une tradition du roman d'aventure. Je pense à des auteurs comme Jules Verne, comme Alexandre Dumas, comme Victor Hugo aussi. Ces auteurs, aujourd'hui, j'en ai la conviction, ils écriraient dans des collections jeunesse. Parce que c'est là que le souffle d'aventure a trouvé refuge. La littérature blanche, comme on dit, la littérature adulte, a un peu déserté ça. Notamment en France, on a toute la vague de l'autofiction qui raconte le réel, le quotidien, de manière parfois un peu nombriliste. Mais on a besoin, ça peut être bien sûr utile, ça peut nous nourrir, mais on a aussi besoin de se nourrir d'épices, d'aventure, et ça je le trouve dans la littérature jeunesse. Ça c'est une des raisons pour laquelle j'en écris. L'autre raison, c'est que ça met en scène des personnages, notamment dans la littérature adolescente, qui sont à la fin de l'enfance, au début de l'âge adulte. C'est l'âge de tous les possibles. C'est l'âge où pour la première fois on prend ses premières décisions sans que les parents soient derrière pour rattraper les pots cassés. Donc on connaît ses premiers succès mais aussi ses premiers échecs. On prend conscience de la complexité du monde, on a envie de changer le monde, on est révolutionnaire quand on a 17 ou 18 ans. Et ça c'est follement romanesque. Et mettre en scène des personnages qui sont à cet âge-là, c'est très stimulant pour un écrivain.
Très bien. Et justement, Phobos traite de la dictature des écrans et notre rapport à l'image à travers la réalité. Vampiria évoque l'âge baroque, Versailles et notre rapport au temps. Les Licorniers évoquent la différence dans un fond de légende arthurienne. On retrouve beaucoup de références au travers de tes œuvres. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ?
Alors vaste sujet si j'ose dire, parce qu'on pourrait tenir plusieurs heures. Les influences, elles sont multiples, mais c'est vrai que je me nourris beaucoup de mes lectures, hein, comme d'autres auteurs, des voyages que je fais en littérature et des voyages que je fais dans la vie réelle. J'ai eu la chance de vivre dans pas mal de pays. Je suis franco-danois, j'ai vécu en France, mais aussi en Irlande, à Singapour, aux États-Unis où j'habite actuellement. Et je me nourris de ces voyages réels et aussi des cultures des différents lieux où j'ai vécu, de leurs imaginaires, de leur mythologie. J'essaye d'infuser tout ça dans mes récits. Les Licorniers, tu as dit tout à l'heure que c'était un roman, mais en fait c'est une BD. Pas de souci, je rectifie juste pour les auditeurs. Et c'est vrai que dans Les Licorniers, par exemple, je puise dans la légende arthurienne, qui est un cycle qui fait partie de l'imaginaire occidental, mais qui est tellement riche qu'on peut le re-raconter, faire du retelling, diraient les Américains, c'est-à-dire reprendre des figures très connues comme Lancelot, la Dame du Lac, Merlin, et les projeter dans un univers complètement différent, dans la modernité. Les contes de fées, c'est la même chose. Dans mes premiers romans, Jack Sparks, Animal, je tourne autour des contes de fées classiques, connus, les contes de Perrault, les contes d'Anderson, et je les projette soit dans le Colorado de nos jours, ça c'est pour Jack Sparks, soit à l'époque napoléonienne en France, ça c'est pour Animal. Et le vampire, après, une autre source d'inspiration, une autre figure comme ça, archétypale, qui hante la littérature depuis au moins 3 siècles, mais que chaque auteur, en fait, chaque époque a pu s'approprier et en donner sa version. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a une grande plasticité de ces créatures, qu'elles sont toujours présentes, elles sont toujours pertinentes, mais on peut les réinventer constamment. Et j'essaie d'apporter modestement ma petite pierre à l'édifice qui construit ces mythes, en fait, dans la durée.
Et justement, on peut retrouver Vampiria et Phobos en BD. Quel a été ton travail d'écriture pour rééditer ces ouvrages-là ?
Alors, la bande dessinée, à la différence du roman, c'est une œuvre collégiale. On est à plusieurs. On n'est pas qu'à deux, hein, parce qu'il y a effectivement l'auteur, le scénariste et le dessinateur, mais très souvent, le coloriste est encore un autre métier. Le lettreur est aussi un autre métier. Donc, il faut qu'on se mette tous d'accord pour créer une œuvre ensemble. Et c'est vraiment dans le dialogue. Et moi, je trouve ça très intéressant et très stimulant, en parallèle à mon métier de romancier où je suis seul maître à bord. Et quand je me mets à faire de la BD, du scénario de bande dessinée, c'est un travail en équipe. Et les deux sont très complémentaires. La manière dont je travaille avec mon dessinateur, c'est que je lui envoie un script. Lui va faire un storyboard, comme pour un film, donc un crayonné rapide de l'interprétation du script. Il va souvent me faire des contre-propositions en me disant « Cette case, j'aimerais bien la diviser en deux. Là, avoir une action représentée un peu différemment. » Et on se met d'accord comme ça sur le crayonné final. Ensuite, il passe à l'ancrage. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Après, les deux exemples que tu as cités, c'est aussi un peu différent. Phobos, c'est vraiment l'adaptation des romans. Oui. Donc la série BD suit la même histoire que les romans. Alors que Vampiria Inquisition, c'est un spin-off. En bande dessinée, je raconte une histoire qui se situe dans le même univers que les romans, mais qui suit d'autres personnages. Et là, ça rajoute un plaisir supplémentaire, c'est de faire de l'intertextualité. C'est-à-dire qu'il y a des personnages des romans qui vont apparaître dans la BD, et inversement, des personnages de la BD qui, tout d'un coup, vont apparaître dans les pages des romans.
Et ça a été une volonté de ta part, justement, ces rééditions-là, en particulier, ou pas du tout ? D'aller vers la BD
Oui, parce que je parlais tout à l'heure du fait que je suis grand lecteur de littérature jeunesse, mais aussi grand lecteur de BD depuis toujours. Donc voilà, ces médias graphiques, cette manière graphique de raconter des histoires, ça me parle beaucoup comme lecteur. Et j'avais envie depuis longtemps de me mettre aussi de l'autre côté, à fabriquer des BD, à faire des BD, à raconter des histoires en images. Ça a commencé avec Phobos et j'y ai pris goût, donc ça continue depuis.
Et justement, je me demandais également comment tu élaborais tes univers et tes personnages.
Alors deux questions assez différentes pour moi en tout cas, parce que c'est comme si c'était deux hémisphères différents du cerveau qui travaillaient pour les deux. Pour le world building, comme on dit, la construction de l'univers, c'est très rationnel pour moi. Je fais beaucoup de recherches, soit des recherches scientifiques quand c'est de la science-fiction comme Phobos, ou des recherches historiques quand c'est de la fantasy historique comme Vampiria. Et après j'injecte de l'imaginaire et j'essaie d'avoir le monde le plus différent d'une autre, mais en même temps le plus complet, construit et cohérent. Qu'on ait l'impression le temps de la lecture d'y être. Et quand il y a un système de magie, il faut qu'il soit verrouillé de tous les côtés pour qu'il soit crédible. En revanche, les personnages, c'est l'autre hémisphère du cerveau qui fonctionne, c'est le côté plus intuitif. Je ne les réfléchis pas trop à l'avance, ils viennent à moi, au cours de l'écriture, un peu comme des silhouettes, qui s'approchent de moi ou dont je m'approche et qui se précisent au fur et à mesure que je les écris. Donc j'apprends à les connaître en les écrivant, les personnages.
Alors, on va un petit peu parler de tes nouveautés. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'Agence Perdido qui va sortir, si je ne me trompe pas, chez Bayard Jeunesse le 2 octobre ?
Tout à fait, c'est mon roman le plus récent. Tout est parti d'une question. Hein. Très souvent, les histoires, que ce soit d'ailleurs de la fantaisie ou même des histoires contemporaines, ça part de la question « et si ?». Moi, il se trouve que je suis assez étourdi, j'égare souvent des choses. Hein. C'est peut-être le revers du métier d'écrivain, on est perdu toujours dans son imaginaire. Donc, je perds des stylos, je perds des livres. Et je me suis dit, et si toutes ces choses que je perdais au quotidien n'étaient pas égarées, mais volées par des mains qui se glissent d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre ? Comme ça, je ne suis pas responsable de mes pertes, donc c'était déjà pas mal. Et je me suis dit, mais qui seraient ces créatures ? Et assez vite, l'idée des croque-mitaines est arrivée. Parce que dans les croque-mitaines, je retrouve ce qui me plaît tant dans les mythes qui traversent les époques, comme le vampire, les contes de fées, c'est qu'ils sont toujours présents. Mais en même temps, il y a une spécificité du croque-mitaine, c'est qu'il est difficile de le représenter. Autant le vampire, on a une idée en tête, les fées, les sorcières, on a une idée. Le croque-mitaine, il est protéiforme. Parce que chaque culture a son idée du croque-mitaine. Et même chaque enfant qui pense qu'il a un croque-mitaine sous le lit se fait une idée. Quand on se penche sous le lit pour le voir, on voit rien. Parce que par définition, le croque-mitaine, on l'entend plus qu'on ne le voit. Et je me suis dit que j'allais, dans cette série Agence Perdido, montrer les croque-mitaines pour la première fois, imaginer que ce sont eux qui nous volent nos choses, qui nous volent aussi parfois des gens qu'on perd de vue, des amis de longue date, ils ne donnent plus de nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est la vie qui les a éloignés ? Non, ce sont les croque-mitaines également qui les ont capturés, en tout cas dans mon univers Agence Perdido. Et j'ai aussi imaginé quand même qu'il fallait un contrepoids aux croque-mitaines et qu'il y avait une caste d'humains qu'on appelle les retrouveurs qui ont la capacité magique de pénétrer dans les oubliettes où vivent les croque-mitaines, là où ils gardent tous ces trésors qu'ils nous volent, pour essayer de retrouver et de reprendre ce qu'ils ont dérobé. Et donc on va suivre dans Agence Perdido une petite agence de retrouveurs qui est basée à New York, où j'habitais à l'époque, et qui essaye de mener sa lutte contre les croque-mitaines, ces voleurs de l'ombre qui existent dans l'ombre de nos maisons, de nos greniers, de nos caves.
Et justement, on voit à travers tes œuvres que tu fais plein de séries finalement. Comment ça se passe, l'organisation de séries aussi? Et puis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta volonté de faire une série avec l'agence Perdido?
La respiration naturelle de la fantasy, c'est la série. Hein. Quand on regarde la production de la fantasy depuis que ça existe comme genre, il y a plus de séries que de one-shot. Il y a plusieurs raisons à ça. Une raison, c'est le world-building. On en parlait tout à l'heure, quand on crée un univers, ça prend du temps à l'installer et on a envie de l'étaler sur plusieurs livres. Les lecteurs qui se sentent bien dans ce monde-là, ils ont envie d'y rester sur plusieurs livres. Ça permet aussi, au niveau épique, de suivre des personnages, leur évolution au long cours, de les voir changer, grandir, vieillir, mûrir. Donc moi, c'est ma respiration naturelle aussi en fantasy, j'y vais assez spontanément.
D'accord. Et justement, on parle de tome 1 avec tes nouveautés là de 2024. Est-ce qu'il y a déjà des dates de fixées pour les tomes 2 et suivants?
Oui, tout à fait. Donc je peux déjà donner rendez-vous aux lecteurs pour le tome 2 d'Agence Perdido en octobre 2025. Donc il y en aura un tous les ans, il y aura 4 romans. Mais il y aura également un spin-off en BD à partir d'octobre 2025 qui va s'appeler Rita Perdido. Rita Perdido, c'est la créatrice de l'agence. Dans les romans, c'est une vieille femme très mystérieuse, entièrement enveloppée de noir. Elle porte une voilette sur le visage, elle est très mystérieuse. Voilà, on ne sait pas quel est son passé. Et bien justement, dans les BD, on va plonger dans le passé, au début des années 80, quand Rita Perdido était elle-même une adolescente, et on va découvrir quelle est son histoire. Donc tout ça en octobre 2025. Et j'ai le tome 2 des Licorniers qui va paraître, lui, en mai 2025. Et également le tome 6 de Vampiria en mai 2025.
Donc il y a une suite à Vampiria aussi. Voilà. Donc on va passer par un petit portrait chinois pour la fin de cette interview. Quel personnage serais-tu si tu pouvais être au cœur d'un livre d'imaginaire?
Sauvé par le gong. Ça me laisse le temps de réfléchir en même temps.
Oui.
Il est 7h. Oula, là c'est le compte à rebours. Bah y en a plein, et le plaisir du lecteur, en fait, c'est de pouvoir se glisser dans la peau de plein de personnages, et c'est pour ça qu'on aime bien varier les genres. Mais c'est vrai qu'une lecture qui m'a beaucoup marqué à l'adolescence, et justement pour moi je fais pas de différence entre roman et bande dessinée, donc c'est un personnage de bande dessinée que je vais citer, c'est Corto Maltese d'Hugo Pratt, qui est ce personnage d'aventurier qui est toujours sur le fil justement entre la réalité et le fantastique, entre l'histoire et la légende, et je trouve ça très poétique.
Et quel objet imaginaire serais-tu?
Un anneau magique, j'aimerais bien. Ouais, un anneau magique.
Une petite référence avec les seigneurs.
Oui, alors, mais je ne sais pas lequel. L'anneau unique. Non, un anneau bénéfique.
Ouais. D'accord. Et quel livre culte serais-tu, puisqu'on est cultissime?
Alors là, c'est difficile parce que il y a plein de livres qui m'ont formé comme écrivain. Il y en a quand même un qui a été une grande claque d'imaginaire pour moi, et ça, c'est pas du tout original. Hein. Je vais faire une réponse que beaucoup ont fait. Le Seigneur des Anneaux. Quand je l'ai lu la première fois à 13 ans, je me suis rendu compte qu'un écrivain pouvait créer un monde aussi réel, voire même plus réel que notre monde. Quand on lit Le Seigneur des Anneaux, il y a une telle épaisseur fictionnelle avec ces cultures, cette histoire, ces langages qui ont été inventés, et que je me suis rendu compte qu'un un écrivain pouvait être un dieu créateur, en tout cas dans son univers, et ça m'a complètement bouleversé. Donc voilà, très modestement, je dirais, je voudrais me réincarner en Le Seigneur des Anneaux.
Très bien. Alors justement, dernière question. Quel est ton choix musical pour accompagner cette petite interview?
Alors justement, on parlait... voilà. Alors c'est le L'Angelus. Voilà.
Hell's Bells d'ACDC.
On disait tout à l'heure que le grand plaisir de la lecture, c'est de pouvoir varier les genres, de se glisser dans la peau de plein de personnages. C'est aussi le grand plaisir de l'écriture. C'est pour ça qu'en tant qu'auteur, j'essaye de faire des genres variés, de faire de la science-fiction, de la fantasy, du roman futuriste, philosophique comme Cogito. Et ça m'inspire un choix musical. Il y a un artiste, un musicien que j'admire entre tous, c'est David Bowie. Parce qu'il s'est réinventé pendant toute sa carrière, il s'est frotté à tous les genres, donc c'est lui que je dirais, et pourquoi pas Ashes to Ashes, qui est justement une chanson sur laquelle il réfléchit à toutes ses incarnations successives.
Très bien. Alors, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu de cette petite interview. Merci.
Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu sous les cloches d'Angers. Voilà.
Dixon, est-ce que tu valides aussi ce choix musical?
Oui.
On n'entend pas, mais elle a dit oui. Ashes to Ashes, David Bowie, extrait de l'album Scary Monsters and Super Creeps en 1981, où il nous donnait des nouvelles de Major Tom, qu'on avait perdu dans l'espace, 12 ans plus tôt, quelque chose comme ça.
T'as quand même un meilleur accent en anglais que moi. Il faut, c'est important à noter.
Pas de mal. C'est l'heure de l'agenda. Pierre-Marie, tu avais des choses à nous annoncer.
Et cette fois-ci, je m'adresse à l'ensemble de nos auditeurs qui sont des fans invétérés de l'association Imaginaire et de son but premier qui est le Salon Imaginaire financé par une anthologie annuelle. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'appel à texte pour la session 2026 sera mis en ligne au plus tard lundi prochain. Nous vous attendons avec impatience.
Vous pouvez aussi acheter l'anthologie sans écrire dedans. Hein.
Oui, wow, c'est moins fun. Le thème sera dévoilé et il sera propice à énormément d'imagination. Non, Valentin, on calme ses ardeurs. Le but étant de nous faire rêver en révisant l'histoire.
Ou pas.
Voilà, après suite, parce que j'ai autre chose à dire, mais pour le coup, c'est moi qui finis maintenant. Il y a le flip.
Ouais, et avant, il y a tour de jeu à Vitré.
Tout à fait.
Festival des jeux de société qui se déroule au château de Vitré.
Essaye de montrer un peu d'engouement quand tu le dis.
Mais oh,
et puis effectivement, le flip appartenait, je crois, ce sera du 12 au 20 juillet. On aura peut-être le temps d'en reparler. On va refaire une émission avant quand même. En direct, avant que tout le monde parte en vacances. On pense faire une émission zombie infectée. Parce que la team cinéma est partie voir 28 ans plus tard, c'est ça?
Oui, exactement.
Voilà.
Donc, en récapitulant, si vous êtes des ludotrotteurs, vous pouvez aller à Vitré direction Rennes le 5 et le 6 juillet prochain pour jouer. Exactement, c'est une association de jeux de société. Et le 12 et 13 juillet à...
Non, du 12 au 20, je pense.
Du 12 au 20, ça dure bien 8 jours. Ouais. Une semaine, donc du 12 au 20, j'ai oublié les 8 jours de plus, c'est pour ça, 28 jours de plus. Donc, du 12 au 20 à Parthenay pour le Festival International Ludique. Et enfin, mais dans bien plus longtemps, dernier week-end du mois de septembre, ça fait dans très longtemps, 27 et 28 septembre, et ben l'association ne sait pas quoi faire parce qu'elle a trop de choix.
Ben, il y a Cultissime déjà.
Il y a Cultissime qui revient, oui, mais en même temps, il y a deux jours en jeu. Encore
on peut
des
faire
jeux
les
de
deux,
société.
Hein.
Oh, il faut avoir
tout
le
tout sera au même endroit presque dans le centre-ville d'Angers.
J'ai le don d'ubiquité et je l'ai pas encore. J'ai déjà du mal à finir ma salade. Et sinon, il y a les Aventuriales. Alors, c'est un peu plus loin, mais ça reste l'association de copains ou les copains associations qui font leur salon à
4 heures de route, non?
Clermont-Ferrand. Mais des trolls, personne ne connaît ici. Hein. C'est comme si tu disais, ouais, c'est à Saint-Florent-le-Viel, et que tu habites à Marseille. Non, Saint-Florent-le-Viel, ils ne connaissent pas, c'est Angers.
Allez, on a le temps de réécouter un petit peu de musique et on se donne rendez-vous donc dans deux semaines dans l'imaginaire. On termine avec Gros Cœur. Groupe belge qui joue jeudi soir au Joker's Pub. On va dire, ils ouvrent un peu le festival Lévitation qui se déroule ce week-end.
J'ai cru que
tu parlais
d'un groupe qui avait ta préférence, comme sur Deezer, tu mets un gros cœur.
Mais ouais, mais c'est très très bien. Et le morceau s'appelle Sacrifice.
Oh yeah.
À plus.
Sacrifice. 101.5 FM.